Je pense que la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « je ne sais pas par où commencer ». Le grand avantage du digital, c'est aussi son pire inconvénient. Il permet de quasiment tout faire, mais du coup, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et c'est un vrai problème parce que soit on s'éparpille, ou alors on reste bloqué à rien faire, et ça, c'est pas possible. C'est vraiment trop dommage de passer à côté de tout ce que le digital peut nous apporter. Alors j'ai créé un mini-programme, 5 jours. Je vous donne 5 jours pour remettre à plat votre stratégie digitale. Rien de compliqué, je vous envoie un mail par jour avec à chaque fois un élément essentiel à mettre au clair dans votre stratégie. Et je vous promets qu'au bout d'une semaine, vous y verrez beaucoup plus clair. C'est gratuit, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste entre nous, mais ça pourrait changer la trajectoire de votre marque. Pour recevoir mes emails, il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com/5 jours. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 65. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je pense ne pas trop me tromper si je dis que vous utilisez les réseaux sociaux. Et je prends pas trop de risques si je dis que vous avez au moins un compte chez Facebook, Instagram ou WhatsApp. Mais alors c'est pas parce qu'on utilise les réseaux dans notre vie personnelle, qu'on sait toujours comment les intégrer dans notre activité. Du coup, j'ai eu envie d'inviter aujourd'hui quelqu'un pour qui l'utilisation des réseaux sociaux d'un point de vue professionnel est absolument naturelle. Ce quelqu'un, c'est Brice Vinocourt, qui est responsable marketing chez Facebook. Dans cet entretien, je discute avec Brice de social selling, c'est-à-dire de comment les réseaux sociaux peuvent nous aider à vendre. Il me donne sa vision du e-commerce et ses conseils personnels pour améliorer sa pratique du marketing. Je vous propose d'accueillir tout de suite Brice Vinocourt. Bonjour Brice, bienvenue sur le podcast du marketing.
Bonjour Estelle.
Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler de social selling, on va parler de Facebook, bien sûr, puisque Brice, tu es responsable marketing chez Facebook. Donc, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. J'ai une petite tradition avec le podcast du marketing. Je t'ai déjà présenté dans l'introduction, mais j'aime bien que ce soit l'invité qui se présente avec ses mots à lui. Est-ce que tu peux nous dire, Brice, qui tu es, puis ce que tu fais chez Facebook?
Avec plaisir. Du coup, je suis Brice Vinocourt. Je m'occupe du marketing pour la région Europe du Sud chez Facebook et Instagram. Et j'ai commencé ma carrière en fait chez L'Oréal après un master en marketing. L'Oréal qui est une très bonne école du marketing, très structurée, où j'ai évolué entre le marketing et les commerciaux. Et puis, j'ai voulu aller sur le terrain du digital. Et à ce moment-là, il n'y avait pas énormément d'opportunités chez l'annonceur puisque les équipes étaient relativement restreintes. Et du coup, j'ai souhaité partir en agence. Et donc, j'ai rejoint DDB Paris et notamment la Digital University, qui était une petite entité de cette agence, pour faire la formation et du conseil en marketing digital, où je me suis vraiment spécialisé pendant 5 années sur la compétence digitale pour des secteurs d'activité très différents, de la banque au luxe en passant par les burgers. Et puis, j'ai décidé de rejoindre Facebook il y a maintenant 5 ans, d'abord pour m'occuper du marketing de la France, et aujourd'hui, je m'occupe du marketing pour la région Europe du Sud. Et donc, l'intérêt de passer du côté des acteurs de la tech qui donnent un regard très intéressant sur notre métier aujourd'hui.
Super. Bon, c'est intéressant. C'est marrant. On a un parcours. On n'a pas le même parcours, mais on a un parcours assez similaire de passage de l'annonceur à l'agence à l'annonceur. J'ai fait exactement sur complètement d'autres marchés, mais j'ai fait exactement la même que toi. Bon, mais super. Est-ce que tu peux nous dire, donc, ton titre, tu me disais, tu es responsable marketing Europe du Sud chez Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que responsable marketing, ça veut tout et rien dire. Est-ce que tu peux me dire, chez Facebook, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est qu'un responsable marketing?
Tout à fait. Je vais commencer déjà un peu plus largement par parler du métier de responsable marketing. Alors, chez Facebook aussi, c'est du marketing B2B. Donc, on a deux types de marketing, ce qu'on appelle le consumer marketing, dont l'objectif est vraiment de construire des marques d'entreprise, et le métier de marketing B2B qui est vraiment focalisé sur les entreprises de toute taille. Et donc, le métier du responsable marketing, c'est de construire une vision et de se positionner sur un territoire de marque ou un produit et de mettre en place des stratégies pour influencer des actions de différentes audiences. Donc ça ne change pas quelle que soit l'entreprise. Et donc, chez Facebook, concrètement, ça veut dire travailler pour continuer à développer la marque Facebook et Instagram pour les entreprises et aussi construire des stratégies avec nos équipes pour faire en sorte d'accompagner au mieux les annonceurs et les agences qui investissent dans notre plateforme et qui utilisent au quotidien nos produits pour faire la publicité, notamment sur Facebook et Instagram.
D'accord. Donc, en fait, donc vous accompagnez des entreprises de toute taille.
On accompagne des entreprises de toute taille. Ce sont des équipes différentes parce que ce sont des façons très différentes de faire du marketing, bien sûr, avec des échelles qui ne sont pas les mêmes. Et donc, mon équipe s'occupe en particulier du B2B pour les grands comptes. Mais on a aussi tout un tas de programmes et d'initiatives qui visent directement les TPE et les PME, qui sont aujourd'hui d'ailleurs la majorité des business qui utilisent nos plateformes aujourd'hui. Il y a 180 millions d'entreprises qui utilisent nos applications chaque mois, dont 9 millions d'annonceurs. Donc, on voit que très largement, ce sont des TPE-PME et qui, d'ailleurs, pour la majorité d'entre eux, utilisent nos solutions gratuites puisque Facebook et Instagram, pour les entreprises, ce ne sont pas que des publicités, c'est aussi tout un tas de ressources qui sont à leur disposition pour développer leur business.
Ah bah génial, bah justement c'est de ça dont on va parler, c'est un peu pour ça que je t'ai invité sur le podcast du marketing. J'avais vraiment envie que tu nous parles un petit peu, de qu'on comprenne comment est-ce que en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur ou créatrice d'entreprise, qu'on ait un budget ou pas d'ailleurs comme tu le dis, comment est-ce qu'on peut utiliser Facebook, parce que on voit tous Facebook souvent de deux façons. Quand on me dit Facebook, je pense Facebook mon utilisation personnelle, pour discuter avec mes amis, et puis Facebook Ads, mais finalement je pense que à ça, et je pense que la plupart des gens ne pensent qu'à ça. Et tu me disais que il y a peut-être plein d'autres façons ou des façons auxquelles on n'a pas nécessairement pensé d'utiliser Facebook. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, et notamment autour de du fameux terme de social selling, de comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer Facebook dans notre business?
Bien sûr, donc sur Facebook, il y a différents outils qui accompagnent les marques et les entreprises de toute taille, quels que soient leurs objectifs. Et ça va vraiment de la construction de marque. Et donc là, on parle notamment de tout le modèle publicitaire qui permet aux entreprises, et encore une fois, sans barrière à l'entrée, puisqu'aujourd'hui, quel que soit le budget, il y a de quoi toucher des audiences pertinentes sur nos plateformes. Et donc des modèles payants qui permettent de servir tout un tas d'objectifs. D'ailleurs, quand on commence à faire la pub sur Facebook et Instagram, la première chose qu'on nous demande, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que votre objectif, c'est de développer la notoriété de votre marque ou de votre produit? Est-ce que c'est vraiment d'attirer des gens sur votre site web? Est-ce que c'est d'attirer des gens en magasin? Donc en fait, ça répond vraiment à l'ensemble des challenges marketing que peuvent avoir les entreprises. Et puis au-delà de ça, c'est des solutions aussi qui sont organiques ou gratuites et qui permettent de construire une présence en ligne. On parlera peut-être par exemple des shops qu'on a lancés pendant notamment la pandémie sur Facebook et Instagram, qui permettent aux entreprises de développer leur boutique en ligne de manière relativement simple et gratuite et de rediriger du trafic vers leur site de e-commerce. On peut parler aussi des messageries qui aujourd'hui sont devenues un nouveau standard dans la relation client. Maintenant qu'on a goûté à des réponses rapides sur des messageries, on n'a plus forcément envie d'appeler tout le temps des téléphones qui vont nous rediriger vers un standard où on va attendre et patienter plusieurs minutes, etc. Donc aujourd'hui, c'est tout un tas d'outils qui permettent de réduire les frictions et de développer tous les outils qui permettent de faire du marketing et du commerce. Et puis du coup, on a cette vision un petit peu qui est le discovery commerce, qui vient un petit peu donner des nouvelles opportunités aux entreprises pour utiliser nos plateformes.
Alors, je te coupe juste une seconde, parce qu'effectivement, quand on pense Facebook, souvent on pense que c'est que Facebook. Non, Facebook, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Messenger, c'est ça, hein, ces trois-là.
Où il y a plus, c'est ça, c'est un écosystème qui est intégré et qui permet, et on en parlera peut-être plus tard quand on parlera des bonnes pratiques un petit peu, mais qui permettent de toucher là où le consommateur est le plus présent et le plus réceptif aussi à ce qui va être notre communication. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi l'atout d'utiliser ces plateformes, c'est de pouvoir être certain que, où que soit le consommateur, on va pouvoir le toucher de la manière la plus pertinente pour lui.
Ouais, c'est-à-dire que c'est pas... Arrête-moi hein, si je me trompe, mais l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, quand on va toucher le consommateur, il n'est pas question nécessairement de le toucher qu'une seule fois et qu'à un seul endroit, mais ça va être plutôt de le toucher ou en tout cas lui rappeler le message, peut-être d'ailleurs de façon un petit peu différemment, mais de discuter avec lui, d'interagir avec lui à différents moments de sa réflexion, de son cycle d'achat finalement, c'est ça?
Voilà, et en marketing, il y a une notion qui est importante, c'est celle de la fréquence. C'est-à-dire que qu'on veuille construire une marque ou construire de la notoriété ou développer une action chez quelqu'un, C'est rarement une action qu'on peut générer dès le premier contact, et on va avoir besoin de séquencer un petit peu une campagne pour toucher à différents moments une personne avant qu'elle passe à l'action. Le fait de pouvoir le faire à travers ces différents produits permettent de multiplier les opportunités de contact. Après, on peut aussi choisir, en fait, on a le choix, hein, quand on est annonceur sur Facebook, soit de se cantonner à Facebook, Instagram ou Messenger, soit de laisser l'algorithme décider de quel est le meilleur placement à un instant T pour toucher la bonne personne. Donc nous, c'est ça qu'on recommande, parce qu'on a ce qu'on appelle du machine learning, qui est une utilisation de l'intelligence artificielle qui permet d'optimiser au maximum le fait de délivrer la publicité au bon endroit au bon moment. Et donc, plus on utilise ces outils-là, plus on va être efficace et plus on va être pertinent pour les utilisateurs. Et ça, c'est aussi une notion qui est importante. Il ne faut pas qu'on vienne rompre l'expérience, et il faut qu'on s'intègre au mieux dans ce qu'attendent les utilisateurs de nos plateformes.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, notamment je rebondis sur l'algorithme. C'est vrai que quand on fait sa première Facebook Ads, on a tendance à être vraiment, enfin en tout cas moi c'était comme ça il y a quelques années, la première fois que j'ai fait une Facebook Ads, je crois que j'ai passé la journée devant mon ad manager à essayer de regarder est-ce que ça monte, est-ce que les prix montent, les prix descendent, est-ce que je touche bien les gens, etc., etc. En fait, ce que tu dis, c'est que Facebook, il faut vraiment le réfléchir comme un algorithme. D'abord, c'est un algorithme très très conséquent et qui n'est pas que Facebook, mais qui va rouler sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, et qu'il faut lui laisser un petit peu le temps de tourner pour pouvoir trouver les meilleures personnes, la meilleure fréquence, etc. Enfin, ce qui va fonctionner le mieux pour son audience, c'est ça, hein ?
C'est exactement ça, et d'où l'intérêt aussi de bien préparer et planifier la durée de sa campagne, parce qu'il va falloir laisser le temps aussi à la machine de bien apprendre et de permettre de délivrer la campagne la plus efficacement possible. Ça fait partie des bonnes pratiques.
Ah ouais. Et est-ce que tu sais, quand on pense sur le temps de cycle de vie ou de cycle produit, effectivement, on va pouvoir toucher la personne sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger. Est-ce que au sein de Facebook, vous voyez différentes utilités des différents outils, ou est-ce qu'on va juste répliquer la même publicité systématiquement sur les trois outils, ou alors est-ce qu'on va utiliser, je sais pas, Messenger pour faire quelque chose, Facebook pour faire autre chose, et Insta pour autre chose?
Alors, les deux stratégies sont valables en fonction de ce qu'on veut faire. Je dirais que, et notamment avec les dernières mises à jour qu'on a réalisées sur nos outils, notamment ce qu'on appelle Facebook Business Suite, qui est en fait une nouvelle interface qui permet vraiment aux entreprises de gagner du temps, de gérer leur page et leur profil à travers la famille d'applications de Facebook de manière centralisée. Et donc, ça permet justement de faciliter cette création de campagne à travers tous ces différents canaux. Donc, tout est automatisé. Il y a simplement à mettre la créa, à remplir ses objectifs, quelle audience on veut toucher, et ensuite l'outil va s'occuper de vous accompagner pour réaliser ça de la manière la plus pertinente possible. Après, on peut tout à fait avoir des stratégies qui vont être, par exemple, très focalisées sur Instagram, parce qu'on a une forte communauté sur Instagram avec laquelle on veut interagir spécifiquement. Il y a aussi, bien sûr, le marketing d'influence. On va pouvoir aussi se dire qu'un pan de la stratégie qui est plutôt orienté relation client va être plus pertinente sur les messageries comme Messenger, et donc focaliser un effort spécifiquement sur cette plateforme. Donc ça dépend vraiment des usages qu'on a envie de développer et des opportunités qu'offrent les plateformes. Donc il y a vraiment les deux aspects qui sont possibles, soit avoir une optimisation d'une campagne sur tous les différents canaux, soit vraiment se dire que parce que j'ai tel objectif sur telle plateforme, se focaliser vraiment sur une d'entre elles.
C'est intéressant. Je rebondis juste sur un point sur Messenger, et je t'avoue que j'y avais pas réfléchi comme ça. Ce que je lis entre les lignes là, c'est que tu me dis qu'il y a pas mal d'entreprises, en tout cas il y a des entreprises qui utilisent Messenger comme pour pouvoir converser, comme un email en fait, pour pouvoir converser en direct avec ses clients, notamment sur le service après-vente.
Alors c'est ça, sur Messenger, aujourd'hui, il y a plus de 40 millions de business actifs qui envoient des messages à des gens à travers le monde. Donc on voit que c'est vraiment un usage qui commence à être important. On a aussi développé nos outils pour qu'ils soient pilotables de manière plus simple par les entreprises, y compris WhatsApp, qui maintenant a une version web qui permet de mieux gérer, de mieux centraliser la gestion des messages. Il y a aussi des outils qui permettent au business de réagir rapidement. Donc par exemple, quand les consommateurs posent des questions de manière récurrente, on va avoir un outil qui va permettre au business d'envoyer des réponses les plus fréquemment répondues à telle ou telle question. Donc l'idée, c'est aussi d'automatiser un petit peu ces process-là. On a aussi des chatbots qui permettent dans certains cas d'automatiser une partie du process. Et puis, en règle générale, il y a quand même des humains qui sont derrière pour prendre le relais, et notamment quand on avance dans la discussion où ça devient un peu plus délicat à gérer avec de l'intelligence artificielle.
Et alors, juste par curiosité, si, parce que je t'avoue que les chatbots et tout ça, moi, je n'avais pas vu sur Facebook. Si demain, je prends l'exemple, voilà, moi, dans ma boîte, j'ai envie de mettre en place le chatbot, comment ça fonctionne? Il faut que, justement, je contacte cet accompagnement dont tu parlais de Facebook pour le mettre en place? Ou c'est un outil que je n'ai juste pas vu encore et que j'ai juste à mettre en place au sein de Facebook? Comment ça fonctionne?
En général, ce qu'on recommande, c'est quand même de travailler avec des partenaires. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont spécialisées dans la production de chatbots. Il y a aussi des solutions qui vous permettent, si vous êtes motivé, de le faire de manière indépendante. Après, c'est juste un certain apprentissage et un coup de main à prendre. Mais aujourd'hui, le plus simple, c'est quand même de passer par des partenaires qui permettent de construire ces histoires-là.
Génial, mais super intéressant. Je pense qu'effectivement, moi, comme beaucoup de gens, je vois Facebook comme une entité. Et je vois en discutant là avec toi qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire et pas mal de briques à mettre à côté de Facebook pour faire fonctionner tout ça. C'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on peut parler deux minutes du social selling? Donc, social selling, hein, pour ceux à qui ça parlerait pas, c'est vraiment le fait de vendre sur un réseau social. Toi, tu es responsable marketing chez Facebook. Est-ce que tu as... qu'est-ce que tu vois pour le futur du social selling? Est-ce que tu sens des tendances venir sur la façon dont les entreprises vont pouvoir interagir avec les réseaux sociaux pour faire du business?
C'est vrai qu'on entend parler de cette notion de social selling depuis quelques années. En fait, en retravaillant un petit peu cette notion, on a décidé de créer ce concept qui s'appelle le discovery commerce, qui nous semble bien refléter l'enjeu aujourd'hui sur le commerce et les plateformes sociales. Et la vision de Facebook, en fait, elle est relativement claire. C'est la vision de Facebook par rapport au commerce, c'est de rendre les achats plus simples en réduisant la friction. Donc, tout ce qui vient se mettre entre nous et le produit qu'on va acheter. Et donc, permettre à tous, de l'entrepreneur à la plus grande marque, d'utiliser nos applications pour entrer en contact avec des nouveaux clients. Donc, ça, c'est vraiment la vision globale de Facebook sur le commerce. Et le discovery commerce, c'est un moyen pour les entreprises d'aller un peu plus loin que ce qu'elles feraient avec des stratégies e-commerce plus classiques, en devançant les besoins des clients plutôt que de se contenter d'y répondre. Donc aujourd'hui, la vocation du commerce électronique à l'origine, c'est de permettre aux consommateurs de trouver des produits. Celle du discovery commerce, c'est de permettre aux produits de trouver les consommateurs. Donc c'est un peu une inversion de cette pensée-là. Et comment est-ce que ça se traduit concrètement? Ça se traduit par des produits qui permettent de construire sa présence e-commerce sur nos plateformes, et ensuite des outils publicitaires performants qui permettent d'amener du trafic et de toucher les bons consommateurs au bon moment avec les bons produits. Donc ces produits, par exemple, on a beaucoup parlé de Facebook Shops et Instagram Shops, donc ce sont des outils gratuits, et l'objectif, c'est vraiment de donner la possibilité à n'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille de faciliter l'achat au moment de l'inspiration. Et c'est ça ce qu'on entend par social selling. C'est comment est-ce qu'une expérience sociale de découverte se transforme ensuite en vente. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, et notamment sur nos plateformes, c'est qu'il y a une réduction du moment entre l'instant T où je découvre un produit et le moment où je l'achète. Et donc, il y a tout un tas d'outils qui sont disponibles qui permettent de construire cette expérience. Au-delà de Facebook Shops, on avait développé depuis plusieurs années Shopping, qui aujourd'hui, il y a par exemple 130 millions de comptes qui tapent sur un post-shopping chaque mois. Donc, ça montre que ça devient vraiment, en termes de volume, un usage important. C'est aussi une fonctionnalité qu'on essaie de développer qu'on a développée sur IGTV. Donc, IGTV, qui est le format long d'Instagram, qui sera bientôt disponible dans Reels, qui est le nouveau format aussi d'Instagram vidéo. On a développé un onglet shop dans Instagram, donc vraiment un onglet à part qui permet de découvrir des entreprises qui vendent leurs produits ou leurs services sur nos plateformes.
Donc, c'est disponible. Pardon, je te coupe. C'est disponible déjà en France ou c'est aux US et ça va venir?
C'est disponible déjà en France.
Ah ok, super. Ah mais je savais pas, tu vois. Donc, pardon, ce que je comprenne bien, en fait, le raisonnement là, c'est de se dire, quand tu es sur les réseaux sociaux, même pas forcément en termes pub, hein, tu es sur les réseaux sociaux, tu regardes le compte d'une marque ou d'ailleurs peut-être d'un influenceur, j'en sais rien, mais en tout cas de quelqu'un qui te parle d'un produit, puis tu dis, ah ouais, c'est super, enfin qui t'inspire finalement. Donc, tu n'es pas forcément dans la notion de vente directe à ce moment-là, mais d'un coup se crée chez le consommateur l'envie peut-être ou la projection vers ce produit. Là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec Facebook, maintenant, et notamment les Facebook Shops, tu vas pouvoir, dès ce moment-là, pile en fait au bon moment où la personne commence à avoir envie du produit, boum, lui proposer de façon ultra simple et sans que ce soit complexe, en tout cas, de pouvoir acheter directement ce produit sur la plateforme Facebook. C'est bien ça, hein, je retranscris
ça. C'est exactement ça. En fait, c'est un peu réinventer le lèche-vitrine, mais de manière digitale, et simplifier au maximum l'expérience. Et ce qui est toujours intéressant quand on observe un peu la façon dont se sont faits les développements produits sur Facebook, Instagram ou WhatsApp, c'est souvent parti d'un usage de la communauté qu'on a ensuite essayé de faciliter à l'intérieur de nos applications. Donc, par exemple, on avait constaté que les gens utilisaient notre plateforme pour découvrir des produits et ensuite les acheter. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, comment est-ce que optimiser l'expérience pour permettre aux entreprises qui vendent des produits de le faire de manière beaucoup plus simple et intégrée. Même chose sur WhatsApp. On a découvert il y a plusieurs années qu'il y a énormément de petits business, et notamment, par exemple, je pense à l'Amérique latine, qui utilisaient notre application WhatsApp pour rester en contact avec les clients. Mais avec une interface qui était relativement limitée pour l'entreprise parce qu'il n'y avait pas de profil business, etc. Donc souvent, on est parti de ces usages qui ont été créés par les gens, en fait, et les entreprises pour développer le produit et faire en sorte qu'ils répondent mieux à leurs objectifs.
Super. C'est très intéressant. Puis du coup, ça me parle sur le métier de responsable marketing, qui moi est mon ancien métier. Mais je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent travaillent dans des services marketing et beaucoup de gens sont aussi créateurs, créatrices d'entreprises. C'est pour ces personnes-là initialement que le podcast du marketing a été créé. Et toutes ces personnes-là, en fait, ce sont des responsables marketing à différents niveaux, mais sont responsables marketing. Est-ce que toi, tu as une vision en tant que responsable marketing? Comment est-ce que tu vois l'évolution de ce métier? Comment est-ce que tu aurais surtout des tips ou des conseils peut-être à donner à toutes ces personnes pour travailler le marketing?
Oui, alors j'en aurais plusieurs. Alors c'est très high level, mais c'est, je pense, des principes qui sont importants d'avoir quand on travaille dans le marketing n'importe où, dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, peut-être même plus encore quand on est entrepreneur. Donc mon premier conseil déjà, et je le répète souvent chez nous, c'est chercher d'abord des problèmes et pas des solutions. C'est vrai que souvent on entend des marketeurs qui ont un réflexe, qui vont vouloir faire par exemple un événement pour toucher telle ou telle audience, et en fait cette façon de penser qui crée trop vite des solutions avant de vraiment se poser le problème: quel est mon problème, quelle est l'audience que je vais vouloir toucher, pourquoi, quels sont ses freins, quelles sont ses motivations. Et c'est ça qui doit nous conduire à trouver une solution. Et donc, pour moi, il faut passer beaucoup de temps à bien comprendre les problèmes avant de se lancer dans des solutions marketing. Donc ça, c'est la première chose. Mon deuxième conseil, c'est vraiment, et on a pas mal de posters chez Facebook, dont un qui dit « Focus on impact ». Ouais. Depuis que je suis chez Facebook, c'est sans doute celui qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus convaincu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de solutions techniques, il y a tellement d'opportunités marketing. C'est vraiment le meilleur moment, je pense, pour faire du marketing. On est tenté d'ouvrir plein de portes en même temps et du coup de manquer de profondeur, de moins creuser en expertise. Donc je pense que vraiment aujourd'hui c'est important de se dire qu'il va falloir se focaliser sur peut-être un nombre limité de sujets, mais vraiment les creuser, les comprendre, construire sa courbe d'expérience, ou alors vraiment savoir déléguer, passer par des agences. Il y a aussi par exemple pour tout ce qui touche à Facebook, ce qu'on appelle des Facebook Marketing Partners, qui sont là pour accompagner. Et donc, vraiment, pas avoir peur de déléguer à ceux qui ont l'expertise et qui peuvent permettre, si vraiment on a envie d'explorer plusieurs territoires en même temps, de se focus sur ce qui a le plus d'impact.
Ouais, je rebondis dessus, je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, c'est quelque chose que je répète très, très, très souvent sur le podcast du marketing, que je dis aussi sur ma formation. C'est que on a accès, comme tu le disais, hein, on a accès en ce moment, avec le marketing digital, à énormément d'outils, et qu'on ait de l'argent ou pas d'ailleurs. Enfin, c'est ça qui est assez merveilleux, c'est que vraiment, les outils marketing sont accessibles à tous maintenant. Le risque, c'est de vouloir tout faire et donc de ne rien faire correctement. Et même au niveau des réseaux sociaux, moi, je vois, hein, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Ah, mais je veux être partout, c'est vachement bien, je veux être sur Clubhouse, je veux être sur Twitter, je veux être sur TikTok, je veux être sur… » Et à un moment donné, on peut, enfin, à moins d'avoir une grande équipe, et, ou à moins, comme tu le dis, de déléguer, on peut pas être partout. Et je pense que ça vaut sur probablement tous les éléments du marketing. Et à un moment donné, il faut faire des choix, quitte à voilà laisser de côté en partie certains sujets, mais comme tu dis, focus on impact. J'aime bien cette phrase. Il faut faire des choix, faut aller vers ce qui va vraiment changer les choses pour notre business plutôt que d'essayer d'être partout et de mal être partout.
Bah c'est très tentant parce qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui et tellement de nouveaux chantiers possibles qu'on a forcément envie de tester tous ces nouveaux territoires et en même temps ça peut être un problème quand ça nous fait perdre le focus justement.
Eh oui, exactement. Super. T'avais deux autres tips, je crois.
Alors la troisième, c'est un peu bateau, hein. Je pense que dans ce podcast, ça a dû revenir à peu près 150 000 fois, mais test and learn, donc et c'est lié aussi à focus on impact, c'est comment est-ce que on est sûr de tirer des enseignements et je pense que notamment quand on entreprend, on ouvre de nouveaux horizons, il n'y a pas toujours la preuve par l'historique, du coup il faut accepter le fait de défricher les terrains, de faire des erreurs contrôlées, et il faut bien mesurer le risque bien sûr. Mais je pense que c'est important d'avoir vraiment cette notion de tout ce que je fais, qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que j'ai appris et comment ça me fait passer à l'étape suivante, et notamment quand on construit un business. Et puis mon dernier point, c'est plutôt recentré sur Facebook, mais je voulais juste dire aux auditeurs qu'on avait pas mal de ressources en ligne gratuites et accessibles à tous. On a Blueprint, qui est un ensemble de formations qui permettent gratuitement d'être formé à nos outils. Et bien sûr, les sites Facebook pour les entreprises et Instagram pour les entreprises qui ont aussi tout un tas de case studies, de bonnes pratiques et d'exemples créatifs qui permettent de vraiment commencer de manière sereine sur nos plateformes.
Non, mais génial, c'était exactement ce que j'allais te demander. J'allais te demander si on veut travailler avec Facebook ou en tout cas se faire accompagner par Facebook, comment est-ce qu'on fait? C'est ça en fait, c'est aller vers Blueprint ou est-ce qu'il y a un autre endroit, un site dédié pour l'accompagnement des entreprises? Comment ça fonctionne?
C'est vraiment Blueprint qui va aider à monter en compétence sur ce genre de sujet. C'est vraiment un outil qui est très bien fait, qui est à la portée de tous. Donc c'est vraiment la recommandation, c'est de se rediriger vers cette plateforme.
Eh ben écoute, génial. Je pense que tu sais, je suis même à peu près persuadée que beaucoup de gens ont découvert pendant ce podcast qu'ils pouvaient être accompagnés par Facebook. On a tendance à voir Facebook comme cette très 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 grosse entreprise. Et quand on crée sa boîte ou quand on a une PME ou même quand on a une entreprise d'une taille certaine, voilà, c'est un petit peu délicat de se dire tiens, Facebook, il y a des gens derrière. Donc c'est pour ça que j'étais ravie vraiment de te recevoir, Brice, aujourd'hui pour qu'on se rende compte que bien sûr, il y a des gens et puis en plus ils peuvent nous aider. Donc écoute, merci beaucoup de tes conseils et puis je vais mettre comme d'habitude tous les liens dont tu nous as parlé dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci beaucoup Brice.
Merci Estelle.
J'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange avec Brice. C'est vrai qu'on a souvent tendance, et alors moi la première hein, d'ailleurs, on a souvent tendance à voir chaque réseau de façon individuelle sans forcément penser au parcours utilisateur. Alors qu'on le sait toutes, hein, on se promène entre plusieurs réseaux, Facebook, Instagram, pour ma part LinkedIn, et puis on échange sur Messenger, WhatsApp ou autre. Donc on n'est évidemment pas cantonné à un seul réseau. Et j'ai trouvé vraiment intéressant le fait que Brice prenne ce parcours dans son ensemble et intègre les différents réseaux dans sa démarche marketing. Je pense que c'est vraiment une façon de penser à adopter dans nos business parce que si l'on pense parcours utilisateur plutôt que réseau social par réseau social, d'une part, on se rapproche plus de la réalité de nos clients et d'autre part, on voit vite comment chaque réseau va pouvoir jouer un rôle différent. Par exemple, on va découvrir un produit sur Insta, on va l'acheter sur Facebook Shop et puis échanger avec le service consommateur via Messenger. Tout ça de façon ultra fluide depuis son téléphone. Et puis j'ai bien aimé les conseils de Brice en tant que marketeur, notamment le fait de chercher des problèmes et pas des solutions. Alors dans la vie, j'ai tendance à faire plutôt l'inverse, mais lorsqu'il s'agit de ses clients, je rejoins Brice. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de creuser ce qui ne va pas et de vraiment comprendre dans toutes ses dimensions ce qui ne va pas parce que c'est souvent là qu'apparaissent les meilleures idées et pourquoi pas les futures évolutions produits. J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de vous pencher sur l'utilisation que font vos clients des réseaux sociaux. Et puis comme d'habitude, si vous appréciez le podcast du marketing et si vous voulez me soutenir, le plus simple, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Et puis si vous voulez être sûr de ne manquer aucun épisode et de recevoir tous les cadeaux bonus que je propose directement dans votre boîte mail, eh bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter du podcast. L'adresse, elle est très simple, lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je ne suis pas allée chercher bien loin. Je vous dis à très vite.